Sénégal. 2500 km de route pour désenclaver les régions à fort potentiel économique. Un programme spécial de désenclavement sur 3 ans mobilisera 60 entreprises locales, plus de 300 sous-traitants et généreront plus de 50 000 emplois. Le président sénégalais Macky Sall a annoncé vendredi le démarrage en 2022 d'un programme spécial de désenclavement portant sur plus de 2500 km de route sur l'étendue du Sénégal pour une durée de 3 ans. S'exprimant dans son message radio-télévisé à la Nation à l'occasion du Nouvel An, Macky Sall a indiqué que les chantiers de ce programme spécial mobiliseront 60 entreprises sénégalaises, plus de 300 sous-traitants et généreront plus de 50 000 emplois. Il a aussi révélé que le montage technique et financier de l'autoroute de Nord-Dakar-Kivoine-Saint-Louis et du chemin de fer Dakar-Tambacounda est en cours. Désenclaver les régions agricoles et minières. Le 17 décembre dernier, la Banque africaine de développement BAD annonçait l'octroi d'un prêt de 161,62 millions d'euros, soit 105,86 milliards de francs CFA, pour la mise en œuvre de la première phase du programme de désenclavement des zones agricoles et minières du nord du Sénégal. Le prêt est supporté à hauteur de 117,62 millions d'euros par la BAD et de 44 millions d'euros par l'Africa Growing Together Fund et GTF, un fonds créé conjointement par la BAD et la Banque Populaire de Chine. Les travaux concernent la construction de 483 km de route sur plusieurs sections. Kidira Bakel 65 km, Moukuduri 172,44 km, Lougakœur, Momarsa, Richard Todd 116,27 km, Orofondé Matam dans le Dindé Mayo Nord 104,23 km et 25 km de la RN2 entre Thiès et Kébémer. 460 milliards de francs CFA pour l'autoroute à péage Mbour-Fatick-Koualaq. Depuis novembre dernier, le chantier de l'autoroute à péage Mbour-Fatick-Koualaq tourne à plein régime. D'un coût global de 460 milliards de francs CFA, soit quelque 620 millions d'euros, ce projet financé principalement sur un prêt préférentiel fourni par Export-Import Bank of China, 85%, devrait être livré fin août 2025. Le projet est connecté à l'autoroute AIBD-Mbour, reliant la zone économique spéciale l'AIBD et les régions orientales. Un schéma qui permettra d'améliorer le système d'accès d'évacuation externe de l'aéroport, mais aussi d'optimiser les réseaux routiers et l'environnement d'investissement de la zone économique spéciale. Le Sénégal a enregistré une croissance économique d'1,3% en 2020. La crise sanitaire a eu des répercussions sur l'économie sénégalaise en 2020, qui a enregistré un taux de croissance d'1,3% après 4,6% en 2019, selon les comptes nationaux semi-définis de 2020 et définis de 2019 publiés par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, qui indique que cette situation est consécutive à la crise sanitaire liée au Covid-19 et les mesures restrictives prises par les autorités nationales et internationales pour limiter la propagation du virus. De plus, une hausse d'1,5% du niveau général des prix est notée en 2020, après une appréciation de 2,1% en 2019. Les dépenses de consommation finale ont progressé en volume de 2,3%, après 4,3% en 2019. Ce ralentissement est en liaison avec le comportement de la dépense de consommation marchande des ménages qui s'est accrue de 1% en 2020 après 4% en 2019, note le document de l'ANSD. Qui s'est accrue d'1% en 2020 après 4% en 2019, note le document de l'ANSD qui ajoute que la formation brute de capital fixe FPCF en volume a évolué de 4,3% en 2020 contre 10,3% en 2019 sous l'effet du faible dynamisme de la composante privée, 1,7% en 2020 contre 11,3% en 2019. Les exportations des biens et services se sont contractées de 13% après une hausse de 14,4% enregistrée en 2019, tandis que les importations de biens et services se sont accrues de 7% en 2020 contre 6,8% en 2020. Le taux d'épargne nationale s'est bonifié de 0,4 points pour s'établir à 24,3% du PIB en 2020, contre 23,8% en 2019, indiquent les statistiques. Un contexte mondial difficile. L'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée à la pandémie à Covid-19. À cet effet, des mesures visant à limiter la propagation du virus ont été prises par de nombreux pays et ont ralenti l'activité économique, souligne l'ANSD. Ainsi, l'économie mondiale a connu une récession de 3,1% en 2020, après une croissance de 2,8% en 2019. Cette situation est le reflet des difficultés des pays avancés qui enregistrent une croissance de moins 4,5%. Royaume-Uni, moins 9,8%, zone euro, moins 6,3%, États-Unis, moins 3,4%, etc. Des pays émergents et ceux en voie de développement, moins 2,1%. Toutefois, la Chine a enregistré une croissance de 2,3% en 2020. Au niveau de l'UEMOA, les économies ont été affectées par la pandémie, mais ont fait preuve de résilience, ce qui s'est traduit par un taux de croissance positif d'1,8% en 2020, après 5,7% en 2019. Ce ralentissement de la croissance est lié à la baisse de l'activité économique, notamment dans les secteurs manufacturiers, de l'hôtellerie et de la restauration, en lien avec les mesures prises par les États pour freiner la propagation du virus, rapporte le rapport dans son introduction. Qu'a gagné le Gabon en intégrant le Commonwealth ? Ali Bongo, le président gabonais, a promis une adhésion de son pays au Commonwealth en 2022. Une action symbolique ou vraiment bénéfique pour le Gabon. Lors de son discours de Vaux, Ali Bongo, le président du Gabon, a prévenu que son pays en 2022 devrait intégrer la grande famille du Commonwealth, une famille forte de 54 États. Si l'information est encore conjuguée au conditionnel, le chef de l'État y voit déjà un tournant géopolitique majeur pour son pays qui désire, dans un monde globalisé, s'ouvrir et adhérer à un autre espace multiculturel, également porteur pour le pays. Car si le Mozambique et le Rwanda ne sont pas d'anciennes colonies britanniques, les membres de l'organisation internationale ont tous en commun d'avoir autrefois été sous la coupe du Royaume-Uni. Depuis plusieurs années, la France et le Gabon ne sont plus les meilleurs amis au monde. Et en 2020, le pays d'Ali Bongo a donc décidé d'entamer son processus d'adhésion au Commonwealth. Lors de son discours pour la nouvelle année, le président gabonais a tenu à préciser qu'il ne souhaitait pas abandonner son identité francophone. Mais si l'adhésion au Commonwealth est confirmée, nul doute que la France et le Gabon s'éloigneront encore un peu plus. Si le Gabon a réussi à bien avancer sur ce dossier, c'est avant tout grâce à sa politique environnementale. Le Gabon dispose de nombreux atouts pour intégrer le Commonwealth, notamment l'engagement sur les changements climatiques et les politiques de développement durable, la stabilité du pays depuis de nombreuses décennies et son engagement dans la stabilité de la sous-région et du continent, ainsi que l'engagement du Gabon sur les droits de l'homme et l'égalité des genres, indiquait sans aucune ironie le gouvernement gabonais en mai dernier. Ali Bongo revenait alors d'une visite officielle à Londres. Il y avait rencontré la secrétaire générale du Commonwealth, la baronne Patricia Scotland, ainsi que le prince Charles. Tout semblait alors bouclé pour que le Gabon soit intégré au Commonwealth un mois plus tard, lors d'un sommet à Kigali qui a finalement dû être reporté en 2022. Sauf surprise, Ali Bongo devrait donc arriver à ses fins cette année. L'autonomie anglo-saxonne reste condescendance française. Mais quel intérêt a le Gabon à intégrer le Commonwealth ? Tout d'abord, le pays sait, comme tous les pays membres de la francophonie, que Paris ne brille plus autant qu'auparavant. S'ouvrir au monde anglophone est presque devenu une nécessité dans un contexte où l'influence française est réduite à son strict minimum. Mais pour autant, une adhésion au Commonwealth n'apporte rien en matière d'échange économique ou de réduction des taxes douanières. L'attrait du Commonwealth s'appuie sur un mythe. Celui qui, dans les pays francophones, dit qu'il faut être un pays anglo-saxon pour pouvoir se développer, résume l'analyste politique ivoirien Sylvain Nguessan à BBC. Elle espère d'ajouter qu'aucune colonie francophone n'a pu se développer jusqu'à présent, contrairement aux pays anglo-saxons qui ont pu un temps, soit peu, prendre leur envol. L'exemple du Rwanda qui accompagne Ali Bongo dans sa démarche n'est pas étranger à la création de ce mythe. Le pays, après avoir adhéré au Commonwealth, s'est en effet transformé en véritable modèle de miracle économique. S'il n'apporte pas de bénéfices économiques directs, le Commonwealth serait en réalité une façon pour les pays membres de se libérer d'un joug français. Pour Sylvain Nguessin, certains se disent qu'il y a une manière de réfléchir à la francophone et une manière de réfléchir à l'anglo-saxonne. Et que quand on est anglo-saxonne, on est plus enclin à se prendre en charge, on est plus porté sur l'entrepreneuriat. Surtout, assure toujours à BBC l'analyste, le Commonwealth permet d'apporter un minimum d'autonomie là où la France veut toujours tout contrôler. Les Français, conclut le journaliste Bakary Domingo Manet, sont des gens qui avaient un style de domination, à la limite même, ils avaient une sorte de condescendance par rapport aux pays colonisés. Tandis que le style anglais, évidemment, accorde une certaine liberté et une importance au pays. Tandis que le style anglais, évidemment, accorde une certaine liberté et une importance au pays. Reste que le Gabon, s'il adhère au Commonwealth, aura fort à faire. D'un côté, il devra ménager les susceptibilités françaises. L'Élysée perd en effet un nouvel allié et reverra forcément à la baisse ses aides à investissement au Gabon. Mais Ali Bongo devra, s'il veut s'émanciper, montrer que son pays est capable d'avancer en toute autonomie. Découverte du gisement pétrolier Baleine, la Côte d'Ivoire dans la cour des grands producteurs de pétrole brut en 2021. La société Eni a découvert au large des côtes ivoiriennes en août 2021 un important gisement pétrolier dénommé le gisement Baleine. Cette découverte place la Côte d'Ivoire au rang des grands producteurs de pétrole brut. L'un des faits marquants de l'année 2021 a été la découverte du gisement pétrolier dénommé le gisement Baleine. Le potentiel du gisement Baleine est de 2 milliards de barils de pétrole brut et 2400 milliards de pieds cubes de gaz naturel. Ce gisement va être exploité en deux phases. Une première phase en 2023, soit 15% de la production à terre, et une deuxième phase en 2026. Le pétrole brut sera commercialisé au plan international et les ressources issues de la vente de ce pétrole reviendront en partie à la Côte d'Ivoire et serviront à l'économie nationale et donc au bonheur des populations. Le gaz naturel sera utilisé entièrement pour la production d'électricité en Côte d'Ivoire. Le gaz naturel associé qui sortira de ce gisement permettra de répondre à la demande des populations en énergie électrique. Faisant de la transition énergétique l'une de ses priorités, il a été demandé à la société Eni de faire en sorte que l'exploitation de ce gisement soit réalisée avec des projets à la clé qui permettent de diminuer l'impact carbone. Impact carbone. Des instructions ont été également données pour que l'exploitation de ce gisement soit neutre en termes de carbone. Cela veut dire qu'on n'aggrave pas la situation, donc en même temps qu'on se préoccupe d'apporter l'énergie aux populations, qui est une demande importante et qui contribue au bien-être des populations, en même temps on s'assure que l'exploitation de ce gisement ne va pas aggraver l'impact carbone en Côte d'Ivoire, surtout que les autorités ivoiriennes ont pris la décision de renoncer à la centrale au charbon. Avant la COP26, faut-il le rappeler, la Côte d'Ivoire s'était engagée à avoir un pourcentage d'énergie renouvelable de 42% dans le mix énergétique à l'horizon 2030. La Côte d'Ivoire a décidé de passer ce pourcentage de 42% à 46% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique. En clair, la Côte d'Ivoire va dans le sens de la transition énergétique. Le nombre de localités électrifiées en Côte d'Ivoire, faut-il le noter, a augmenté de 230% depuis 2011. La couverture du pays est passée de 33% en 2011 à 80% en 2020.